Musically
on Radio Know How.
Musically
on Know How Radio.
Bonsoir à tout le monde, à Musically, les chanteuses de jazz, et puis à Yann Altermat avec nous. Comment tu vas?
Ça va super, et toi?
Nickel.
Parfait, très content de refaire une à Musically.
Oui, à fond. Et puis aujourd'hui, on a des chanteuses de jazz. On va pas trop patienter, puis on va directement balancer la première chanson.
Voilà, Strange Fruit, c'est un magnifique morceau de Billie Holiday, qui, enfin, par contre, très triste. Hein. On commence pas de manière très gaie la soirée. C'est les étranges fruits en français. Ça fait référence aux noirs pendus dans le sud des États-Unis. Et c'est pour condamner ça que c'est un poème. Je vais pas raconter toute l'histoire, bref. Mais c'est un poème que mis en musique par Billie Holiday. Et il y a pas quel qui l'a chanté, mais c'est une des versions de référence.
On va écouter après
une autre version. Voilà, exactement. Et c'est un magnifique morceau tragique.
Voilà. Billie Holiday, à tout de suite.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. The gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Billie Holiday, The Strange Fruits. Et on va écouter plus tard encore une autre Billie Holiday et puis des autres versions.
Exactement.
Peut-être tout à la fin. Donc, on a le temps aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres émissions après. Donc, on se prend le temps qu'il faut. Mais par contre, on va directement écouter une autre.
Voilà. Une version de 1900, je n'ai pas regardé, dans les années 90. Fin 90, en fait, qui est de Cassandra Wilson. Incroyable chanteuse aussi. Mais vraiment un traitement plus contemporain de ce morceau, avec des effets sonores. Enfin, ça, une magnifique version. Voilà.
Bah, écoute, à découvrir version plus moderne, c'est toujours hyper intéressant. Nous, on trouve hyper intéressant quand ce genre. Après, il y a souvent, par exemple, Billie Holiday, on est bien d'accord, et il n'a pas écrit forcément tout seul, en fait.
Non, d'ailleurs, c'est pas à l'origine. J'arrive pas. Je sais pas si elle composait. Ouais.
Mais c'est toujours. Il y avait ces chanteuses qui prenaient beaucoup de chansons et puis tout, mais. Souvent, les gens ils pensent que les chansons qu'ils chantent, que c'est eux qui ont composé en fait.
Non, mais souvent, exactement. Souvent en jazz, ce qu'on appelle les standards de jazz,
ouais.
C'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont dans le répertoire de Broadway ou des choses qui viennent de différentes influences ou différents répertoires. Et les chanteuses, enfin les chanteurs, sont pas forcément. À l'origine du morceau, mais ils ont fait une version de référence, ce qui fait qu'on les connaît pour ce morceau, en fait.
Mais, voilà. Mais en fait, à ce moment-là, ils sont déjà avec les droits d'auteur, que ça se passe comment avec, par exemple, les standards de jazz, là, le livre de jazz qu'on a à l'école de...
Ah, ça, c'est très intéressant. C'est une longue histoire, ça. J'essaie de la faire courte, mais on pourrait mettre en référence même pour ceux qui sont curieux. Il y a un gars qui a fait toute une explication détaillée de cette histoire. C'est qu'en fait, à la base, les musiciens de jazz relevaient eux-mêmes, soit d'oreille ou soit avec leur crayon et leur papier à musique. Ils relevaient tout seuls, comme des grands, les choses. Il n'y avait pas d'album de référence. Et c'est dans les années 50, 60, à l'école de jazz Berkeley, que des étudiants se sont mis à tout retranscrire, des fois de manière très mal. D'ailleurs, il y a des erreurs dans le readbook. Et c'est devenu une référence, une bible, mais une bible illégale. Pour parler de ce que tu disais avant, comment ça se passe pour les droits d'auteur? Ça se passait très mal, c'était illégal. Moi, j'en ai acheté un dans les années 2000 à Boston, et puis le copain qui me l'a acheté, c'était vendu caché sous le bureau. Fallait dire, oh, j'aimerais des readbooks, puis filer en douce. C'était illégal. Et après, le comble, c'est qu'après, les majors, enfin, les vraies maisons d'édition, elles ont repris ce readbook pour en faire un new readbook, qui est une version légale de ce truc illégal, en recopiant un peu le truc. Mais une version, en fait, ils copient le truc pirate en faisant un truc légal. Mais
donc nous, ouais. À l'école jazz, quand nous on était à l'école jazz, qu'on devrait acheter ce livre-là, on faisait quelque chose d'illégal, en fait.
Voilà.
en plus, eux, ils les vendaient. C'était nous, on l'achetait à l'EJMA, le nôtre, le real book.
Ouais, c'est complètement illégal. C'est le new real book, c'est légal. Après, ils ont fait des real books, mais où c'est marqué l'édition, qui est très connue, là, je me souviens plus. C'est marqué le nom d'édition dessus. Al Leonard, voilà, c'est ça. Al Leonard, ils ont sorti avec le même design un peu pirate, mais c'est pas des pirates, c'est des faux pirates, en fait. Ils font exprès de faire comme si c'était un manuscrit.
Ils mettaient quand même, on n'a pas joué assez le real book, mais il y a le nom origine, en fait, du mec qui l'a composé quand même dessus, ou pas?
À des morceaux, tu dis?
Oui.
Ah oui, il y a toujours le compositeur, et puis le titre compositeur, et puis les disques d'où c'est issu. Ouais.
Ok.
Il y a toujours les...
Voilà. Comme ça, on sait tout.
Voilà, donc voilà.
Il faut dire, c'est pas que dans le jazz. Hein. Il y a Tony Holiday, par exemple, lui, il a écrit très peu de chansons. Hein. C'est pour ça qu'il y a des interprètes, il y a des gens qui prennent des chansons. Et puis,
voilà.
Il y a des gens qui écrivent pour eux, donc aussi...
Florent Pagny.
Bah ouais, mais donc il faut quand même dire que interprète et puis compositeur et parolier, c'est tous des différents métiers à l'époque. Et puis c'est seulement par la suite ou dans la pop culture qu'on a essayé de faire croire, aussi souvent on essaie de faire croire que les gars ils ont tout composé, ils ont tout fait. Même par exemple chez Bob Marley, c'est marqué Bob Marley. Des fois c'est marqué Bob Marley and the Wailers si les musiciens ils ont donné encore quelques idées. Mais la chose elle se passe complètement différent, nous on le sait.
Mais Bob Marley, c'est tout lui qui faisait.
Non, justement pas. Et justement, c'est là que Aston Barrett, en fait, le bassiste, lui, il était un élément important, en fait, dans le groupe pour faire les harmonies, les trucs et différents trucs. Mais il était rarement, en fait, ou il était même sur les disques, c'était marqué que c'était lui. Mais dans les droits d'auteur et puis tout, on a juste mis Bob Marley. Mais ça, c'est, encore une fois, ça c'est après. Ça dépend comment on fait le truc. C'est juste aussi pour dire que souvent, quand il y a un groupe et puis un groupe fixe, c'est pas justement juste le compositeur et puis le parolier en fait qui a fait tout le boulot, mais souvent il se prend tout le crédit aussi. De l'autre côté, nous on sait aussi, on a fait l'expérience que si tu partages tous tes morceaux en différents de trucs et puis tu donnes des points à tout le monde, t'es vachement emmerdé pour faire des sorties de disques. Du coup, il faut chercher des signatures tout le temps chez 15 personnes pour sortir un morceau. Donc, c'est aussi ce côté-là que tu dis, on fait la truc un peu autrement. Mais c'est toujours un bordel avec les droits d'auteur. Mais heureusement, il y a quand même ce real book pour que les gens ils puissent jouer les morceaux un peu.
Et ça reste le pirate, hein, le plus utilisé, il me semble.
Mais de toute façon, ouais. Après, il y a tout un débat aussi sur les droits d'auteur. Ça, c'est tout un autre sujet.
Attends.
Parce que qui a vraiment inventé qui, quoi? Parce qu'en gros, il y a les gammes qui nous ont donné, il y a les notes qui nous ont donné, il y a énormément de trucs qui nous ont donné, et puis nous, on s'est dit après d'être compositeur de quelque chose, alors qu'on est juste collectionneur, voilà.
Ah là, tu parles comme un ami jazzman que j'adore, Lucien Dubuis, saxophoniste de Bienne, qui dit... Ouais, mais on dit que c'est moi qui l'ai fait, mais en fait, c'est un ensemble d'événements qui fait qu'une mélodie, elle sort de moi.
Ah ouais.
Ben, lui, il dit ça, lui.
Ouais, ouais. Mais c'est justement, ça, c'est tout un débat sur les droits d'auteur, mais on laisse quand même chanter. Comment elle s'appelle, la chanteuse?
Cassandra Wilson.
Ouais. Et elle chante la même chanson qu'on vient d'écouter.
Exactement. Magnifique version.
Un peu moins triste, on verra très bien. À tout de suite.
gallant sow. The bulging eyes and the twisted mouth. And fresh. And in the sudden smell of burning flesh, here's a fruit for the crows.
Magnifique, magnifique interprétation. Beaucoup, ouais. Beaucoup contrebasse.
Ouais, exactement. Puis la trompette ou le cornet. C'est un cornet, en fait. Ouais.
Cool. Alors, par la suite, on arrive à...
À quelque chose de plus léger.
À Fitzgerald.
Voilà, qui elle est devenue, c'est un des morceaux, elle n'est pas devenue célèbre pour ce morceau, mais c'est une des versions qu'elle a faites qui l'a rendue célèbre, d'un standard aussi, d'un standard qui est issu de Kurt Weill, c'est ça. On pense quelque chose, ils sont noirs américains et tout, mais tout est mondial en fait, hein. C'est le morceau qui vient d'un opéra.
Si tu dis Kurt Weill?
Oui.
Kurt Weill, ça veut dire quoi?
Kurt Weill, c'est le célèbre. Musicien Kurt Weill, là, tu poses une colle là, d'un coup je me sens.
Mais Kurt Weill, c'est le gars qui a créé les pianos.
Kurt Weill, non, ça n'a rien à voir. Kurt Weill, c'est un compositeur, donc c'est bien un compositeur. Il a fait l'opéra de Katsu, c'est un compositeur allemand en fait.
Ok. On va chercher les infos.
Voilà, il a fait l'opéra de Katsu, il a fait plein de choses, il est hyper important dans la culture allemande. Et puis, je découvre en même temps qu'en fait, après, il est mort aux États-Unis. Donc, apparemment, ben, voilà. Ce morceau est issu du répertoire de Kurt Weill. Et ça parle d'un poignardeur, en fait, un méchant monsieur.
Mac ouais. The Knife.
Voilà. Le nom, c'est Mac. Voilà, il s'appelait Mac.
Mac the Knife. Donc, Mac, le couteau, en fait. C'est ça, la
traduction. Voilà.
Ouais. Voilà. Bah, on va écouter ça, et puis on fait les petites recherches sur Kurt Weill. À tout à l'heure.
Thank you. Thank you. Shark has I promise you.
You can explain these, can you?
I can explain them pills, yes. Basically, and this is the truth, every time I flush them down that toilet, they magically reappear back in my pocket.
No, I'm not having that, mate. I'm not having it.
I promise you, every single time I flush them down that toilet, they reappear back in my pocket. If you let go of me, I'll prove it.
Right, okay, show me. Show me, go on.
You don't believe me?
No, I don't.
Bon, on va couper le jingle. Il est marrant, mais il est un peu long. Donc, ouais, Ella Fitzgerald, et puis on a trouvé le Kurt. En fait, ce n'est pas Kurzweil, comme nous on avait compris. Mais
j'ai dû mettre un S par erreur, quand je te l'ai dit.
Mais ouais. Kurt William Weil, né à Dessau, et puis il est né en 1900 et mort en 1950. Enfin, il n'est pas si vieux. Et c'est un compositeur essentiellement de la musique liturgique, c'est ça, liturgique.
Voilà, liturgique. Mais à part ça, il a fait plein d'opéras, plein de trucs. Hein. Il a fait, il a fait beaucoup de choses.
Mais aussi, voilà. On a juste regardé ce que ça veut dire liturgique, parce que.
Voilà, exactement. Il a fait de la musique liturgique. Il a fait de la musique. Excuse-moi, j'ai coupé.
Ensemble. public, rite, prière, chant, donc tout ce qui est à l'église en gros, quoi. Mais justement, comme tu dis, il a fait plein d'autres trucs et puis tout, c'est probablement là qu'il a reçu les jobs et puis après, il a quand même pu s'exprimer un peu autrement.
Bah, même un morceau des Doors, il est issu aussi de l'opéra de Katsu. Vraiment, il a vraiment fait. Ça, il est vraiment, c'est un des piliers de la culture allemande en fait. Voilà. Sauf que c'est pas, voilà, on n'a pas grandi avec ça. Nous, on a grandi plus avec Michael Jackson que Kurt Weill. Mais il y a plein de mélodies qu'on connaît qui sont dans le patrimoine musical mondial en fait de ce gars.
Ouais. Bah ouais, on va écouter une suivante. C'est At Least. Par contre, je sais pas de qui c'est.
Alors ça, c'est... voilà, c'est maintenant que tu me poses la question. on est bien. Donc là, c'est une fabuleuse chanteuse. Hein. J'ai vraiment pris du top, vraiment parmi les... Ça, c'est... tu vas pas saouler. Ah, je sais où le trouver. C'est Etta James, tout simplement. Ouais, voilà, c'est parce que je devais dire le nom. Etta James, je connais moins son histoire à Etta James, mais elle est moins politique, je connais moins un peu des, j'ai moins d'anecdotes à dire, dès qu'on peut y trouver. Etta James, c'est juste fabuleux, quoi. C'est une voix soul, c'est un peu plus soul que jazz. Et puis, la plupart des personnes connaissent, c'est aussi quelque chose que tout le monde a entendu, mais c'est tellement beau que ça fait plaisir de le passer. Voilà. Etta James.
On va écouter ça. Ça rappelle vraiment beaucoup de films. Hein. Ils doivent avoir utilisé ce morceau.
Ouais, c'est célèbre comme tout. Et puis, pour la petite histoire, ça raconte que l'amour enfin trouvé après plein de galères, enfin, at least. Voilà.
Quand même pas la grosse déception à la fin. C'est pas mal.
Voilà.
Ouais. Happy end, Hollywood. Pas mal. Nickel. Alors, on arrive à une prochaine, c'est...
Madeleine Peru.
Madeleine Peru avec Between the Bars. Et il y a quoi de spécial sur celle-là?
C'est une chanteuse ben, actuelle, mais bon, ça, actuelle. Elle a commencé sa carrière, je pense, début 2000, fin 90. Ce qu'il y a de spécial, elle a un peu une voix qui rappelle Billie Holiday, un tout petit peu. Ce qu'il y a de spécial, pas grand-chose, à part la qualité de son interprétation et des musiciens qui jouent avec. C'est juste magnifique. Donc, c'est une grande chanteuse de jazz actuelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Madeleine Peru. Il y a certainement d'autres choses à dire. Son nom n'indique pas, on peut penser qu'elle est française, mais elle est américaine ou canadienne.
Ouais. Après, il y a beaucoup de Français qui sont expatriés.
Voilà, exactement.
On va écouter ça. À tout de suite.
Drink up, baby, stay up all night. Things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now. Forget all about pressure of days. Do what I say, and I'll make you okay. Drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you
tous ceux qui nous ont qui sont fatigués ce soir et puis qui nous écoutaient, c'est à ce moment qu'ils se sont endormis. Mais magnifique chanson. Ouais. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de gens qui écoutent le jazz le dimanche matin, comme ça. Pour, je ne sais pas si j'écouterais ça vraiment le matin, ce genre de truc, parce qu'après, je ne sais pas si j'aurais la frite, en fait, pour faire quelque chose la journée. Et après, c'est chacun son truc. Hein. Toi, en général, tu écoutes, c'est toute heure?
Ouais, c'est une bonne question, ça.
Il y a de tout, hein, si tu écoutes du swing et puis tout, dimanche matin, ça passe bien, t'as la patate, quoi.
Après, en fait, ça dépend de ma mood. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de très... je peux aimer écouter ça le matin. Voilà, ça dépend de ce que j'ai envie. Mais je comprends que ça puisse ne pas être très tonifiant.
Bah, disons à partir d'un moment, je pense si c'est trop, justement, mais c'est comme avec toute musique. Hein. Je sais pas si tu vas commencer le matin avec à écouter des slow, quoi. Tu vois, t'aurais pas vraiment la patate pour faire quelque chose dans la journée. Peut-être.
Mais vu qu'on est le soir, ça peut bercer les auditeurs. Voilà.
Ouais. Ben écoute, on est content si on peut bercer les gens. C'est déjà difficile à dormir avec toutes les angoisses que les gens ils ont aujourd'hui.
Donc, exactement.
On peut passer au prochain qui sera Feeling Good de Nina Simpson.
Nina Simon, on dit pas Simon, Nina Simon. Pas, je veux dire la française peut-être en fait. ça c'est vieux, ça. Pardon.
C'est du 60.
1965, c'est vraiment une des principales aussi chanteuses de jazz qui à la base voulait être concertiste classique, mais à cause de sa couleur, elle a été on lui a mis des bâtons dans les roues. Puis c'était sa grande frustration parce qu'elle voulait jouer du Beethoven et du Mozart et
parce qu'elle était blonde, en fait.
Parce qu'elle était noire, elle ne pouvait pas...
ah oui.
Elle ne pouvait pas accéder à... Peut-être qu'elle a... En réalité, peut-être qu'elle n'était pas le talent de concertiste classique, et c'est la raison. Mais bref, finalement, elle a un petit peu incorporé son jeu, c'est jazz, hein, mais ça... elle a quand même des fois un peu à toucher, elle a une certaine sensibilité qui peut s'apparenter au classique un peu. Mais c'est une des plus grandes chanteuses de soul et de jazz tous les temps. Et puis, elle était très, comme Billie Holiday, très caractérielle, hein, aussi. Elle a fait beaucoup de combats. Comme Billie Holiday, elle a fait beaucoup de combats aussi pour les droits des Noirs. Voilà, c'était une fighteuse et tout. Et puis, avec des hauts et des bas, avec le moral à zéro, se faire taper par son mec. Enfin, bref, c'est... un sacré personnage aussi que tout le monde connaît, hein. C'est aussi une référence.
Tout le monde, bien sûr, tout le monde connaît. Nous on n'a jamais entendu parler, mais par contre, tout le monde connaît.
Ah, quoi, tu veux
de Nina Simon. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know?
butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Rigoler que personne ne le connaît, mais ouais, effectivement, tout le monde doit connaître la chanson. c'est beaucoup utilisé, on ne saura même pas où. Mais,
ouais, les publicités, je pense, ouais. c'est surexploité, ouais, effectivement. Magnifique. On ne sait même pas où.
Non, on ne sait même pas où. C'est un truc... Mais quand tu as dit tout le monde connaît, j'ai rigolé, mais effectivement tout le monde connaît. Mais pas souvent les noms, c'est hyper difficile. Tu dis un nom, la chanson tu connais, mais par contre le nom et puis l'histoire et puis tout, on ne connaît pas.
C'est ça. Exactement, qui... mais on connaît quand même. Ouais. On connaît sans savoir le nom, mais c'est pas. C'est connaître quand même.
Donc on arrive à un temps un petit peu plus moderne.
Exactement, avec une chanteuse qui était, voilà, c'est des grands succès hein, ce soir. C'est Norah Jones, Sunrise, et puis une chanson pleine d'espoir, un peu plus positive.
Ouais, et puis comme tu as dit, je pense que ce sera peut-être la partie 1 des chanteuses, parce que effectivement, de faire ça en une heure, on s'est déjà dit qu'on dépasserait à l'heure de toute façon. Ça prendrait le temps, ça prend. Mais ouais, on peut faire des heures et des heures avec les grandes chanteuses de jazz. Ouais. Effectivement, personne ne connaît en fait les noms et puis tout. C'est pas des Lady Gaga. Mais par contre, la chanson, elle est, comme tu dis, dans les pubs, dans les films et dans les différents trucs, les chansons, ils sont surexploitées. Et il y a aussi le truc avec les droits d'auteur. Après 50 ans, il n'y en a plus, non ?
Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis pas expert. Toi, tu sais peut-être mieux que moi.
Mais peut-être il me semble qu'après 50 ans, tu n'as plus de droits d'auteur. C'est pour ça qu'ils commencent plus en plus à utiliser les chansons qui n'ont plus de droits d'auteur en fait, dans les films. Donc, c'est aussi la raison pourquoi on entend plus en plus des chansons, ce genre de chansons en fait dans les films, parce qu'en gros, ils ne payent pas de droit d'auteur, tu vois, c'est gagné quoi.
Même s'il y a des descendants, ils doivent pas. Les descendants de Nina Simone.
Non, après 50 ans, c'est fini, il me semble. À vérifier. On va peut-être vérifier pendant qu'on écoute Norah Jones.
Voilà, Norah Jones, qui est comme petite anecdote, c'est la fille à Ravi Shankar, un célèbre joueur de sitar indien.
Ah ouais,
et puis c'est un morceau, ouais, c'était un peu du pop jazz qui a très bien marché dans les années 2000. Elle est de 78, ouais. Donc c'est plus notre génération. Et puis c'est très agréable à écouter.
Mais ça reste du jazz.
Alors les limites, justement, petite anecdote que je voulais dire, c'est que en fait, souvent le jazz, on imagine. Bah, j'ai effectivement pas fait les chanteuses cheloues hein, ce soir. Les chanteuses de jazz expérimentales, on n'a pas fait, c'est ça. On fait le jazz un peu, comment dire, qui est facile d'accès. Mais justement, la plupart des grandes chanteuses de jazz dont on n'a pas vu on a vu très peu, on verra très peu ce soir. La plupart des chanteuses de jazz, la petite précision que j'aimerais apporter, elles chantent en fait, elles chantent toujours les
les standards.
Les chansons, elles chantent des chansons en fait. Ça change pas beaucoup du pop. Ouais. On imagine toujours le jazz, c'est oui, abodoubi, oubdap. Il y a Ella Fitzgerald qui l'a fait. Hein. C'est le seul ce soir où il y avait du scat, c'est-à-dire c'est des improvisations vocales.
Ouais.
Alors Ella Fitzgerald, elle faisait des improvisations vocales, mais on peut constater que la plupart des choses qu'on va écouter ce soir et de manière générale, c'est toujours des chansons au final. C'est pas différent que du Bob Marley ou du Véronique Sanson. Hein. C'est de la chanson en fait.
Ouais.
Les standards, c'est pas. Alors il y a, c'est pas forcément ce que j'aime, parce que même quand elles sont bonnes, c'est des fois saoulant. C'est pas du ska. Ça c'est une discipline dans le jazz qui est pas si fréquente. C'est Louis Armstrong, je crois, qui a fait ça le premier. Et puis il y a quelques chanteuses qui font ça, mais c'est pas le propre d'une chanteuse de jazz de faire du scat. C'est simplement de chanter des chansons. Donc quand tu dis est-ce que c'est du jazz, les frontières elles sont limites parce qu'on est presque dans du pop avec Norah Jones. Hein. Les frontières on s'en fiche en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une chanteuse de jazz, c'est aussi la question.
Nous, oui, mais la question, c'est un petit peu qu'est-ce qui est dans l'accepter, en fait. C'est plutôt ça la question. Nous, on s'en fout, on écoute les chansons, mais c'est un petit peu comme dans le reggae. Nous, on a fait du reggae pendant 30 ans, pourtant, pour beaucoup, nous, on n'a jamais fait du reggae.
Exactement, il y avait toujours des gens qui considéraient les Moonraisers comme un groupe de pop. Et c'est pas du vrai reggae, c'est pas du vrai. Tout ça.
Après, voilà. nous, on voulait pas. En gros, ce qu'on appelait du vrai reggae, c'est si tu avais une liaison en fait avec la Jamaïque. Et effectivement, nous, on voulait faire la musique avec le rythme de reggae, mais avec nos aspirations. Je veux dire, nous, on vit dans le monde du rock, du jazz, du funk, et c'est ça que nous on a mélangé. Mais pour les puristes, c'est clair que nous, on n'a jamais fait du reggae. Puis on peut être assez d'accord avec eux. C'est pour ça qu'on a aussi fait la chanson White Spliff Can't Play the Reggae. Donc le spliff blanc, il ne peut pas faire du reggae. c'est pour ça, nous on ne se prétend pas faire du reggae, on fait juste la musique.
Voilà, pour moi, c'est une histoire de ces étiquettes. Voilà, chanteuse de jazz.
Mais on arrive à Lara Jones ou à Norah Jones où il y a quand même beaucoup qui l'ont critiqué d'avoir justement pris le
commercial, on va dire.
Oui, mais elle a quand même pris un peu le chapeau jazz et ça n'a pas plu à beaucoup. Hein, c'est vu qu'elle était dans le pop et puis elle était hyper commerciale, je pense par justement l'élite jazz, c'est pas accepté comme jazz, on est bien d'accord.
Alors je pense, ouais, j'ai pas causé avec des gens fermés, je suis pas entouré de gens fermés, mais c'est bien possible que des critiques disent pourquoi ils comparent ça aux grandes chanteuses.
Nous, on pense que c'est un petit peu comme dans le reggae. Si toi, tu passes à la télé, en gros, tu ne fais plus du reggae. Tu vois. C'est même si Bob Marley est passé à un truc, tu rentres dans le commercial. Et c'est pareil un petit peu pour les puristes de jazz, de se dire que si toi, tu fais une chanson qui fait top 10 ou comme ça, que tu ne fais plus du jazz. Tu vois,
voilà,
du jazz, tu galères. Puis, tu vois. Donc, pour les puristes, en gros, que si quelqu'un il réussit en fait à faire un morceau de jazz, les puristes ils vont dire en fait, c'est plus du jazz. Et ça, c'est un petit peu, je pense, aussi, c'est plus une question musicale, mais c'est une question de jalousie. Quoi. En gros, on est bien d'accord. Parce que qui définit où c'est encore du jazz, c'est pas du jazz, même si tu fais un standard de jazz et puis tu finis au top 10, les puristes ils vont dire c'est plus du jazz.
Ouais, parce qu'il n'y a pas assez d'impro, ou c'est formaté, des choses comme ça.
Exactement. Ou c'est voilà. Produit, exactement. Donc ça aussi, c'est une espèce de catégorie où c'est difficile à définir. Est-ce que maintenant, la chanson qu'on va écouter, après Norah Jones, elle a une voix incroyable, tu la poses par-dessus un orchestre. Ou tu le mets derrière des morceaux pop, ça passe quoi.
Voilà, exactement.
On va écouter.
Norah Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Elle a pas fait des trucs aussi en Afrique là, Norah Jones, dernièrement.
Pas à ma connaissance. J'ai moins suivi ce qu'elle fait, quoi. On entend moins parler d'elle. Hein.
Ouais.
Mais pendant le Covid.
Pendant le Covid, il me semble, elle avait fait un truc tourné en Afrique et puis tout. Elle a fait des morceaux acoustiques avec de la musique africaine et puis tout. Hein.
Ah, ça m'a échappé, ouais.
Je trouvais pas mal. Franchement, c'était. Un peu d'humilité, comme ça, ça se voyait. Mais elle a fait souvent des projets comme ça. Elle a fait des cartons, et puis du coup, elle a aussi fait des trucs qui étaient beaucoup moins commerciaux.
Voilà, exactement. C'est sa liberté. Justement, pendant le Covid, ce que j'avais vu, c'est qu'elle avait fait des lives, des Facebook lives, avec elle au piano, ou elle faisait de la guitare avec une copine.
Ouais.
Et puis voilà, elle faisait une heure de live, comme ça, pendant le Covid. Ça, j'avais vu.
Bah on écoute une suivante.
La suivante.
En français.
Alors, il y a en français. Le texte est en français. Disons que ça, comment dire, sa prononciation du français n'est pas optimale.
Mais c'est ça qui est magnifique.
voilà, c'est assez violent. Hein, là. Pourquoi j'ai choisi, c'est parce que c'est de nouveau ça va pas remonter le moral à tout le monde. C'est avec le temps, tout disparaît. La célèbre chanson de Léon Ferré. Bon, l'orchestration, les musiciens, c'est genre Pat Metheny, c'est magnifique, les musiciens qui accompagnent. Et elle a une voix qui peut être un peu moins facile à aimer, mais c'est hyper touchant et vrai. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, quoi. C'est vraiment bouleversant, sa manière d'interpréter. Alors, voilà.
C'est qui l'artiste?
Abbey Lincoln.
Ah, on va écouter ça. À tout à l'heure.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Tout ça va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, oh, de tout dans le corps, entre les mots, entre les lignes sous le phare, dans ce moment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tu s'évanouis. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la gare, je fais fou dans la haine de la mort, le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qui l'on croyait pour ou pour rien, l'autre qui l'on donnait, tout vendait des bijoux pour qu'il en vienne doucement son pour quelques sous. Devant quoi on se tenait comme à traîner les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Et l'on se sent passé dans un lit de sang et l'on se sent tout seul, peut-être maintenant, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on a avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps, on n'aime plus.
Elle était pas tout seul et il y avait un guitariste, tu disais.
Ouais, c'est une légende, c'est Pat Metheny. Il a un jeu très doux avec un discours parfait. C'est un toujours vivant, mais je crois qu'il est assez humble. Et c'est un des guitaristes phares qu'on reconnaît. On n'a pas besoin. Moi, je le reconnais comme Bob Marley, quoi. Que dès qu'il joue, je sais que c'est Metheny. Ouais.
Lui, il n'utilise pas que les trois notes comme B.B. King, quoi.
Non, lui, non, c'est ça. <bon.
rire> il connaît d'autres gammes.
Ah oui, il connaît bien les gammes, ouais.
Tout ça nous a toujours fait rire, quoi. Le B.B. King, comme tout le monde célébrait B.B. King et puis tout. Après, le mec, il est cool et puis tout, ce que tu veux. Mais en gros, ce que lui, il fait techniquement, tu apprends un après-midi, quoi, tu vois.
Oui et non, parce qu'il y a telle intensité et justesse dans les notes bien de B.B. King.
Ouais, on est bien,
il y a la voix aussi.
Techniquement, on a bien dit techniquement.
Ouais, t'as dit techniquement.
Pas le problème, techniquement, il te faut 10 ans pour vraiment savoir bien le faire. Donc, techniquement, en après-midi, tu l'apprends, mais après, pour le développer et puis pouvoir le bien faire, il te faut quand même 10 ans. Mais juste pour dire encore, la technique de B.B. King, elle est pas très compliquée.
Non, je pense pas qu'elle soit très compliquée, mais il y a une vérité qui est c'est comme la sauce tomate. Je compare ça à la sauce tomate. La sauce tomate, la grand-mère, j'ai pas de grand-mère italienne, je suis pas italien, mais la sauce tomate, tu vas chez grand-maman, dans le sud d'Italie, ça a beau être pas compliqué, peut-être t'arriveras jamais à la faire comme la grand-maman d'Italie. Ouais.
Ouais.
Donc, B.B. King, c'est très compliqué à refaire cette vibes. Puis après, il y a le chant, il chante aussi, quoi. Ouais. Mais effectivement, ça se joue
et moi,
sur la gamme
plus,
blues.
Moi, c'est plus comme Miles, ils disent, pourquoi jouer à beaucoup de notes si tu joues quelques-uns et puis tu touches juste les bonnes, quoi.
Voilà, c'est le cas de B.B. King.
Ouais. Alors, on arrive à...
à coup de cœur.
Les titres, en fait. On va quand même...
Eva Cassidy, Time After Time. Alors, Eva Cassidy... C'est une triste histoire, décidément. Donc, en fait, je sais pas exactement de quoi parle Time After Time, mais c'est son histoire qui est triste. Elle est morte à 33 ans d'un cancer du cerveau et elle est devenue célèbre après sa mort. Elle est morte en 96 et puis, elle marchait bien dans sa région. Maintenant, je ne sais plus. Washington DC, voilà. Elle vient de Washington DC. Et puis, bon, sa région, elle est grande, mais ça reste pas mondial. Et puis, elle est morte. Et après, ils ont sorti des disques. Elle est devenue célèbre après sa disparition. Et elle est incroyable. Là, c'est un live qu'on entend. Et les guitares, voix. Et puis, y a tout. Une musicalité hors norme avec juste guitare, voix dans un pub. On dirait que c'est un pub. Voilà. Eva Cassidy.
Oh, écoute ça.
Time after time. turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said. And you say, go slow. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. Time after time. After your picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, I'm wondering if you're okay. And you say, go slow. I fall. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you fall, time after time.
Comme c'est vachement plus difficile de jouer quand il y a juste qu'une guitare que si tu as tout un orchestre derrière. Hein, c'est...
toute seule, c'est elle qui joue en plus. Hein, c'est elle qui joue.
Ah, c'est elle qui joue la guitare en plus.
Ah, en plus, ouais.
Ouais. Ouais, non, t'entends tout, quoi. C'est,
Mais ah,
c'est vachement plus difficile de donner une attention, de donner une ambiance, de tout gérer.
Ah, tu dois faire tout l'univers toi-même, ouais.
Ouais.
T'es responsable de l'univers.
Tu mets le pas... maître de l'univers, tu viens le maître de l'univers pendant un moment. Non, magnifique. Et puis, on a une dernière chanson. Et puis après, on va faire montrer une petite expérience avec comment
excellent.
Il peut influencer tout un autre monde avec Billie Holiday. Non, Wendy Reen.
Ouais, exactement.
Wendy Reen qui a quand même influencé pas mal de choses, même nous-mêmes. Mais on part pour le prochain morceau qui s'appelle Nothing Really Matters. Donc, Rien n'est vraiment important comme notre émission ici.
Ah non, non, attention, notre émission, c'est très important.
Ça. Très important. S'il vous plaît.
Peut-être que Poutine, il va peut-être écouter et puis il va dire je me calme.
Ouais, ça, c'est de toute façon chacun qui décide après si c'est important ou pas.
Ouais, exactement.
Et nous, en tout cas, on a du plaisir de parler ensemble et puis de partager ta passion. Et comme j'ai dit avant, c'est un kiff de partager, en fait, un kiff de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement cette émission, c'est ça. Nous, on partage le kiff du jazz parce que Yann, on le connaît depuis 30 ans. Et nous, on est impressionnés, en fait. Nous, on était dans le reggae, Bob Marley, puis tout, on n'écoutait rien d'autre. Et pourtant, il y avait plein de musiciens qui nous ont toujours rejoints avec des passions, justement, et lesquels que nous, on a toujours essayé de inclure, en fait, dans la musique que nous, on faisait.
Exactement, ouais.
Donc, c'est une part hyper importante, en fait, de justement, parce que on voulait créer quelque chose de nous-mêmes et puis des mélanges, des différentes aspirations différentes et puis pas juste copier le reggae jamaïcain pour lequel justement qu'on se fait toujours conspuer. Mais c'était ça, quelque part c'était ça.
Complètement, avec des albums comme Legacy, avec tout le temps en fait. Bah, ouais. Il y a toujours eu des autres, tu demandais des conseils à différentes personnes pour l'harmonie, pour faire un truc plus sophistiqué ou des choses. Il y a toujours la recherche de laboratoire,
ouais, ouais.
Avec des aspirations jazz, funk, afro.
Ouais, tout était bienvenu en fait pour vraiment colorer en fait la création en gros, que nous on a vite compris. Tu as beaucoup plus de couleurs dans tes productions s'il y a plusieurs influences, quoi. Après, c'était exactement aussi ce que nous on faisait. C'était le but et puis le message aussi de mélanger ces différents trucs ensemble. Et pour cela, nous on pouvait pas passer à côté du jazz. En plus, on devait justement se taper toute la lecture jazz, même l'histoire de jazz. Yann, tu peux nous faire une petite introduction de l'histoire du jazz standard
oui,
que personne n'a envie de avoir.
Je sais pas si je suis chaud là.
Oui, évidemment. T'arrives même pas, je suis sûr à ce moment. Mais c'est en gros, ouais, aujourd'hui, on va regarder les 15 époques de Beethoven. Non, Beethoven, merde, c'est pas du jazz. Merde. Déjà, toi, tu fais ça beaucoup mieux. Mais,
ouais, je suis venu en ligne.
Ouais, mais on devrait jouer les petits vocales que tu nous as envoyés. Mais bon, le truc, ouais, le cours il commence et puis t'as déjà envie de partir, quoi. C'est vraiment. Ouais.
Ouais. Oh là là.
C'est pas comme ça, on a envie de transmettre ce genre de truc ici même.
Non, le jazz est devenu académique hein, aussi, comme le classique un peu.
Ouais.
Peut-être qu'ils sont en train de s'améliorer avec le temps, disons. Le côté vieux monsieur qui explique la vérité du jazz ou la vérité du classique, ça se calme.
Ils étaient obligés, vu que la moitié de la classe s'est toujours endormie. Ils se sont bien habitués de poser des questions. Comment on peut transmettre le jazz aux jeunes, tu vois, ils ont sûrement eu des discussions dans
les colloques.
Ouais. Alors, pourquoi tout le monde s'endort comme tu sais,
avec des dates de référence. Ils étaient durs, hein. Moi, on devait reconnaître ils nous passaient à l'examen des morceaux, puis on devait reconnaître à 5 ans d'erreur maximale la date des disques.
Ouais.
Voilà. C'était ça.
Nous, on doit quand même dire que on est passé presque 7 ou 8 ans à l'école de jazz. Et à partir de la cinquième année, nous, on a commencé à refuser de faire tous les tests. On n'a pas fait les tests. Et puis, il se dit, ouais, mais si vous ne faites pas les tests, il faut répéter l'année. Et puis nous, on a dit, ok, pas de problème. Et ils en avaient tellement marre que nous, on répétait les années. Parce que, en gros, nous, on avait une bourse que nous, on devrait juste prendre des classes à cette école-là. On ne devrait pas avoir un diplôme à la fin.
Donc... ça n'arrêtait jamais.
En gros, sinon, on devrait répéter l'année. De toute façon, le français, il était nouveau. Toute la théorie musicale était nouveau. Le jazz, on ne connaissait pas du tout. Donc, en gros, tu arrives dans une école et puis tu dis, ouais, toi, tu dois apprendre ça. Et puis tout, tu dis, ok, d'accord. Tu dois apprendre l'histoire du jazz. Tu rentres là-dedans et puis tout. Mais tu ne comprends rien du tout. Tu ne parles pas français. Et puis le mec, il te parle l'histoire de jazz. Tu connais pas les dates, tu connais pas un
seul. Pas les artistes.
En fait, c'est n'importe quoi. Mais eux, ils te disent, en fait, pour suivre en fait, les cours et puis les différents trucs, tu dois faire ça.
Voilà. Tu
vas dormir une heure, mais par contre, tu ne suis pas du tout. Et je leur ai toujours dit, mais ça ne sert à rien ce que vous faites là. Et eux, ils étaient toujours là, ouais, mais on est obligé de le faire. J'étais là. Oh! Mais c'était juste pour remplir, en fait, pour payer, en fait, des classes à certains trucs, pour que tu avais une certaine quantité de cours que tu prenais pour payer, en fait, l'école. Tu vois, pour que si eux, ils te disent que, ouais, l'école, écoute, je ne sais même plus comment dire ça, ça ne m'a jamais concerné, mais si l'école coûte un certain montant, il faut aussi livrer, en fait, une certaine quantité de cours aux élèves. Et donc, ils ajoutaient, en fait, l'histoire de jazz. Et puis, c'est court. Et personne n'avait rien à foutre dans ces trucs-là, tu vois. C'était vraiment... C'était pas du tout... En fait, tu apprenais rien, en fait, sur la musique que tu faisais. Parce que la plupart des gens qui étaient dans l'école, ben, ils faisaient pas du jazz. Personne faisait du jazz à Légemin. On connaissait très peu, en fait, qui rentraient, en fait, vraiment dans le jazz. La plupart, c'était des rockers qui voulaient faire du funk ou d'autres trucs. Mais c'était pas des jazzeux. Donc, sur l'histoire...
Ouais, à l'époque, il y avait très peu. Après, il y a eu plus. Hein, mais à l'époque,
oui, non, mais à l'époque que nous, on était avec les gens, que nous, on était avec Steve, le punk, et puis tout. Qu'est-ce que lui, il avait à foutre, en fait, de l'histoire de jazz, tu vois?
C'est toujours étrange d'apprendre... J'avais un copain, moi j'étais pas comme ça vu que j'aimais le jazz, mais j'avais un copain qui faisait que de la musique irlandaise, et puis il allait artificiellement écouter du jazz pour essayer, pour les examens quoi, mais c'était pas naturel parce qu'il écoutait pas ça et ça il kiffait pas, donc c'était difficile pour lui.
Non, d'aller, à un moment il disait aux gens qui étaient... 2 ans avant de sortir de l'école, il disait bah, il ne faudrait pas avoir de groupe personnel pour vraiment se consacrer entièrement aux examens.
Ouais, je me souviens de ça, mais ça a bien changé. Ça. Maintenant, ils les font
jouer partout. Non, mais, ouais. Mais encore une fois, nous, on ne peut que raconter l'époque que nous, on était.
Mais il y avait ça, ouais.
Mais c'était Moreno. Tu te souviens de Moreno?
Moi, je suis venu plus tard, donc j'ai connu à peine... à peine quoi.
Ouais.
Il arrêtait.
Moreno, c'était un bassiste du Tessin qui il était super doué. Il est même venu jouer remplacer des bassistes pour des concerts de Moonrisers à l'arrache comme ça. Et lui, depuis le début, nous on était toujours avec le train avec lui quand on partait avec Steve et tout, on partait. Et lui, il nous racontait, puis tout, il a dit, mais change pas, puis tout, laisse-toi pas influencer par cette école, puis tout. Lui, déjà depuis le début, il nous alertait en fait que, ouais, vas-y, fais-toi pas trop avoir, continue ce que tu fais, puis tout, toutes ces théories, puis tout, t'as pas besoin. Nous, qu'est-ce que tu racontes? Mais par contre, il avait raison. Parce que tu perds beaucoup, tu fais tellement de théorique et tu fais pas de pratique.
Ouais, ça c'est le problème de toutes les écoles. Là, ça.
Ouais, mais si tu regardes à Ghost qui a fait l'école en Amérique, eux ils avaient vraiment, c'était principalement du pratique et puis moins beaucoup moins théorique, tu vois. ça a du sens, tu vois, ça a du sens. Tu montes un groupe, tu fais un truc, tu fais un concert, tu fais quelques morceaux, tu vois, tu mets le truc en pratique. Alors qu'à l'époque que nous, on était à l'école jazz et puis tout, c'était vraiment, tu fais cinq fois plus de théorique que du pratique. Et puis en plus de ça, quand tu finis l'école et puis tout, ils te disent encore d'arrêter en fait les activités musicales que tu as avec tes copains, quoi. Donc, mais je voyais les gars qui sortaient de l'école de Lejma à la fin de ils avaient fait toutes les cours, le truc, ils avaient le diplôme et puis tout. Et je leur demandais, alors tu vas jouer avec quel groupe? Non, je vais aller servir, quoi. Dans un restaurant, quoi. Je dis, quoi? Tu sors de cette école avec un diplôme et puis tout, non? Non, les mecs, ils allaient servir dans un bistrot pour aller gagner leur thune, tu vois. Donc, musicalement, et puis tout, on n'a pas développé des musiciens. On a développé des intellects, en fait, et ça détruit beaucoup. Moi, ça m'a détruit énormément. J'avais pendant 2-3 ans, et puis tout, j'arrivais plus à composer.
Ah, j'ai jamais pensé ça de toi, ouais. J'ai jamais pensé, ouais.
Il y a un moment, j'ai eu un trou de composition parce que j'avais trop de théorie dans ma tête, tu vois. Alors que quand Tricci m'a montré les 3 accords pour faire du reggae et puis tout, moi j'ai fait 5-6 morceaux. Mm-hmm. Je connaissais 3 accords. Alors une fois que tu arrives à Lejma et puis tu connais toutes les variables, les machins trucs, les harmonies, les différents trucs, les modes, tu fais un morceau à 2 accords et puis tout, tu te sens minable, tu vois. Alors qu'à l'époque, quand je faisais mes chansons et puis tout, à 2-3 accords, 3e accord, putain, j'ai appris un 3e, 4e accord, tu vois. C'était la révélation. Alors qu'une fois que tu connais toute la palette, mais par contre, tu ne l'as pas appliqué, tu ne sais pas quoi faire avec.
Et ça, il faut digérer, ouais, bien sûr.
Bah, il faut digérer et puis il faut surtout le pratiquer. Si toi, on te remplit la tête avec une telle quantité de théorie, qu'est-ce que tu fais avec? Tu te sens juste minable si toi, tu composes un truc simple, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Et ça détruit en fait la création. En tout cas, moi, quand je commençais à rêver des partitions, je me suis dit non, j'arrête ça, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Je veux rêver des lacs, des trucs, des montagnes et puis tout, mais pas des.
Ah, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Maintenant, on parle du positif. Voilà. Ça t'a apporté quelque chose ou que négatif pour toi?
En gros, alors je te dis pourquoi en fait je me suis intéressé à toutes ces théories-là. C'était en fait pour pouvoir expliquer aux musiciens ce que moi je voulais d'eux. Ça c'était mon truc parce que moi j'avais bien beau chanter les différents trucs puis vous dire en fait non il faut faire moi je pouvais pas l'écrire, je pouvais pas le répéter, tu vois. Donc tu vois comment moi je voulais savoir en fait quand je parlais, quand je demandais en fait un truc à un musicien et puis tout, moi je voulais savoir si lui il était capable de faire. Et pareil, tous les trucs des cuivres, tu vois, ça c'était la moitié du groupe et puis la moitié de l'occupation en fait de toute la musique. Donc moi je voulais savoir en fait qu'est-ce qui est capable un trompettiste de faire, qu'est-ce qu'il y a un tromboniste il est capable de faire. Ça m'intéressait parce que si moi je lui dis, mais joue ça, et puis lui il dit, ouais, mais moi, j'ai pas l'instrument pour. Tu vois. C'est pareil que si un ingénieur du son, il fait le son et puis tout. Moi je voulais apprendre comment un ingénieur du son, il fait le son pour savoir en fait qu'est-ce que je peux lui demander. Pareil avec la lumière, pareil avec la mise en scène, pareil avec tout. Organiser un concert. Et il fallait que je le fasse pour savoir en fait quelle galère que c'est pour organiser un concert. Donc à partir de ce moment-là, tu sais aussi en fait comment tu peux le faire. Donc moi, il me fallait la pratique pour
ça. Ah ouais,
voilà, pour tout. Tu peux bien faire ton permis théorique et puis tout, ça ne veut pas dire que tu peux rouler sur la route. Tu vois.
Ah non, mais complètement. Non, mais complètement. Voilà. Ouais.
C'est notre... Alors, si on te remplit que avec la théorie et puis tu n'as pas l'équivalent en fait, de la pratique, tu es complètement perdu. Et moi, j'ai vu ça. Ça, c'est le truc que moi, j'ai vu à l'Ejma à l'époque du début à la fin, alors que j'étais 8 ans.
C'était pas je savais pas que tu avais fait 8 ans, hein, purée.
Ouais. Après, je traînais, tu vois, j'ai compris. Moi, je voulais, à la fin, au milieu, j'ai compris en fait que, OK, eux, ils essayent de me donner en fait quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Alors, comment moi, je peux faire en fait pour sortir la connaissance en fait de tous ces gens là-bas pour pouvoir en tirer quelque chose? Et nous, je suis allé avec, c'était quoi Dreams. Je suis allé avec le morceau Dreams parce que après j'avais des cours harmoniques personnels, personnalisés. Donc j'avais un prof à la fin.
Privé, harmonie privée, ouais.
Ouais. Et justement, c'est là que moi j'ai dit. Moi, je veux avoir un truc beaucoup plus personnalisé. Et donc, je suis allé, par exemple, avec ma production, c'était Mirror, tu vois. Et je suis allé, et puis moi, je voulais comprendre, en fait, qu'est-ce que j'ai en train de faire, moi. En gros, moi, j'avais la musique et puis les différents trucs. J'ai pris les morceaux Mirror, c'était Dreams, par exemple, tu vois. Et moi, je lui montrais le morceau et puis tout pour comprendre l'harmonie, en fait, la chanson que nous, on était en train d'enregistrer au studio. D'accord ? Ça, c'était... C'est comme ça que j'ai allé à l'Ejma à la fin pour comprendre, en fait, ce que nous, on était en train de faire harmoniquement pour mieux comprendre, en fait, pour dire que ah, là, ça ne peut pas jouer. Et puis là, oh, là, il y a des erreurs et puis tout, pour mieux comprendre. Parce que c'était une torchée, quand même, à partir du moment, tu vois.
Et moi, c'était du jazzman.
Ouais, à force, tu vois. Mais le mec, il m'a demandé, comment tu écrirais ce rythme-là, tu sais, puis c'était le Charleston typique du reggae, c'était le... Et lui, là, il m'a demandé, comment tu écris ça sur une partition? Et j'étais incapable, moi. Mais lui aussi. Et c'est là que j'ai compris, putain, ok, d'accord. En fait, il y a des trucs que tu peux jouer, mais pendant des heures et puis tout. Mais par contre, il y a un jazzeux qui vient avec toute sa théorie et puis tout. Et il est incapable de mettre en fait ton pattern que tu joues pendant une heure, alors que c'est un truc sur quatre mesures. Il est incapable de l'écrire sur du papier, tu vois.
Aujourd'hui, il peut l'écrire, mais il ne pourra pas le représenter vraiment. Ouais.
Et non, mais il pourrait le réécrire, mais que si quelqu'un d'autre le jouerait, et puis tout, ça ne sonnerait pas du tout pareil. Voilà.
Ouais, mais ça, c'est les mystères voilà.
Exactement. Donc là, j'ai compris, en fait, que, OK, là, j'ai commencé à comprendre, en fait, OK, il y a un certain truc, en fait, dans cette école-là, moi, je suis en train de faire des trucs. Que dans cette école-là, ils n'auraient pas des réponses. Et ça m'a donné une quelque confiance en fait que d'arrêter de chercher en fait dans cette école ce que moi dans la musique je pouvais pas appliquer. Et à partir de ce moment-là, je fais plus confiance en fait à par rapport à ce que moi je sentais, ce que je voulais entendre et puis tout, que justement me dire en fait, ok, c'est théoriquement en fait explicable. Et pour moi, c'était un grand révélation. C'est comme dans le jazz, je pense, pour certains. Tu fais un feeling et puis tout, tu peux l'écrire beau comme tu veux et puis tout, t'arrives. Si toi, tu ne l'as pas entendu et tu le vois que sur les notes et puis tout, tu ne pourras pas le jouer comme il est entendu.
Oh non, mais on en parlait justement avec Steve Grant de ça, justement. C'est que tu peux pas, il y a le côté oral, il y a le côté sonore. Tu peux pas expliquer une musique sans l'entendre en fait, uniquement dans ces musiques.
Ah bien, alors là, justement, si tu parles de Steve Grant, et puis ça serait intéressant de l'inviter une fois parce que lui, il a une capacité en fait de faire des notes et lui, il arrive à transcrire ça. Mais il n'arrive pas à le transcrire parce que justement, c'est par les notes. C'est parce que lui, il s'est fait les signes de l'expérience que lui a eue à travers toute sa expérience musicale. Tu vois, lui, il arrive à se faire des notes pour se rappeler, en fait, à certains moments.
Exactement, ouais.
Exactement. Mais ça, c'est pas des notes que tu apprends à l'Ejma. Et tu pourrais pas. Et ça, tu pourrais jamais le transmettre parce que quelque part, toi, il te faut une certaine capacité des différents trucs, des événements que toi, tu as vécu, où tu arrives à te rappeler comment ça doit groover. Ça doit groover plutôt lourd, plutôt léger, plutôt machin.
Voilà.
Mais ça, tu peux
ce sujet.
Voilà.
Alors, ce sujet, il est développé, ça vient, c'est une longue histoire, mais c'est Malcolm Braff qui a. Alors, tu peux pas, c'est mieux de faire. Mais lui, il a développé des notes, des systèmes de notation pour donner ces informations manquantes avec des longueurs de notes. Parce que les notes, elles sont jamais comme sur la partition. Elles sont toujours les croches. Voilà.
Si toi, tu as pas le vécu derrière, et puis tout, tu peux bien interpréter ces différents trucs, tu n'arriverais pas à les refaire, en fait.
Non, tu peux pas, parce que tu peux pas faire. Tu peux pas faire une méthode pour faire du Ryan Maiden. Tu peux pas faire une méthode pour faire du AC/DC. Tu peux pas dire. Voilà un bouquin un bouquin de 800 pages pour faire Iron Maiden. Le mieux pour faire Iron Maiden, faut écouter du Nirvana pour faire du Nirvana.
Ouais. Et par exemple, j'ai pris quelques cours de quelques leçons de batterie à l'Ejma. Parce qu'en gros, je pouvais prendre ce que je voulais, c'était payé. Donc, j'ai pris des cours de batterie. Mais je fais deux, je crois. Je fais avec un des meilleurs batteurs de l'Ejma. Et puis, il m'a mis une partition devant. Et puis, il me dit, mais joue ça. Et puis, j'ai dit, tu peux déjà le jouer une fois. Moi, j'arriverai à faire avec une partition, même si j'arrive à décortiquer et puis tout, mais j'arriverai à rien faire si lui, il ne me joue pas. Et lui, il insistait en fait que je regardais la partition au lieu d'écouter en fait ce que lui faisait. Ah,
ça n'a pas été gâté. Ça, je n'ai pas vécu.
Non, après, moi je veux pas dire que justement que c'est partout et puis tout. Moi, je peux
voir
mon propre vécu. Et justement, ce que moi, je cherchais en fait d'avoir en tant qu'école et puis tout, que vraiment. Parce que. En gros, le premier prof de musique que j'avais, c'était un percussionniste, donc dans la percussion. Et la moitié du temps, lui, il me racontait en fait les histoires que lui, il a vécues pendant des concerts, des enregistrements, des différents trucs, vraiment des situations réelles où lui, il devait faire quelque chose. Et puis la moitié du temps, on a joué. Et je pense. Les choses que lui m'a racontées en fait sur son vécu m'a apporté beaucoup plus musicalement que justement le côté en fait que lui m'a fait des exercices de tambour si on veut quoi.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais je pense que les bons profs
oui, maintenant. Ça j'avais avec Pogé, ça j'avais avec Lisa Brown, ça j'avais avec toutes les bons profs qui avaient du vécu. C'est ça que j'avais besoin. Moi, je n'avais pas besoin forcément de toute la technique et puis tout, qu'ils m'essayent de me transmettre toutes les techniques. Et puis, Lisa Brown, par exemple, il était parfait là-dedans. Elle était, depuis le début, elle m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas une prof, mais moi, je peux te montrer, en fait, mon expérience. Et je lui ai dit, merci. C'est exactement ça que je veux. Et je ne veux pas plus. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de toute la théorie du monde et puis tout, que tu m'expliques l'univers entier et puis tout. Mais je veux juste qu'en fait, que tu
voilà, me j'ai pas un.
Voilà. Mais en gros, pour le chant, Lisa Brown, c'était la révélation pour moi. Parce que moi, j'avais à l'Ejma, j'avais une prof, en plus, elle n'était même pas jazz, elle était classique. Donc, moi, j'ai appris à l'Ejma, à l'école jazz, j'ai appris la technique classique pour chanter. Super.
Okay.
Tu vois? Donc, ça ne correspond pas du tout, en fait, à un concert, à des différents trucs, mais ça correspond à chanter dans une salle où il n'y a pas de micro, quoi. Mais moi, j'ai une scène avec des micros et puis tout, et puis j'ai chanté en fait comme dans un opéra, tu vois. Alors, moi, j'avais mal au bide, je vomissais après les concerts, mais j'étais vraiment mal, tu vois. Et une fois qu'il y avait Lisa Brown et puis tout, et tout ça assouplissait, tu vois. D'un coup, je pouvais chanter des notes beaucoup plus aiguës avec beaucoup moins d'effort, tu vois. Parce qu'elle, elle avait l'expérience de chanter sur scène avec un groupe derrière, avec des batteries et puis tout, tu vois. Pour dire que justement, si la musique autour de toi, elle est forte, qu'est-ce que tu fais? Toutes ces différents trucs. L'autre, elle ne savait pas. Elle était super chaud, la nana, et puis tout. Elle m'a montré toutes les combines du chant classique. Mais on a même ouvert le livre Bob Marley pour chanter des chansons Bob Marley. Alors, elle était classique, et puis tout. Elle a trouvé ça énorme, et puis tout. Elle a fait ça avec moi. Mais en gros, j'ai rien appris, en fait, pour chanter sur scène. J'étais vraiment mal, tu vois. Donc, c'était hyper fort. Je chantais deux fois plus fort que les choristes en acoustique, tu vois.
Je ne savais pas tout ce que tu racontes. C'est incroyable.
Et après Lisa Brown et puis tout, et ça tout assouplissait. Je chantais des trucs beaucoup plus aigus, beaucoup plus détendus et puis tout. Et c'était ça. Et puis, encore une fois, Lisa Brown, elle n'a peut-être pas un vécu d'école et puis tout.
Académique, oui. Ouais.
Académique, même si après, elle est mariée avec Beauvais, qui connaît beaucoup en théorie et puis tout ça. Mais elle vend aussi ses cours de chant. Moi, je n'ai pas d'expérience et puis tout, mais je n'ai pas de théorique et puis pas d'école et puis je ne suis pas prof de chant, mais je peux transmettre mon expérience. Voilà. Et ça, pour moi, c'était, en tout cas, c'était des gens qui m'avaient amené toujours beaucoup plus. Même avec Poget, c'était pas les techniques sur la guitare. Et puis
oui, il a compris ce dont tu avais besoin, c'est ça, en fait. Oui. C'est se comprendre ce dont l'élève a besoin, c'est ça.
Oui, je pense avec Poget, pour lui, c'était cool. Putain, il y a Jabba qui vient et puis tout. C'est pas que... Et il n'a pas besoin non plus d'avoir, en fait, un certain succès par rapport aux cours qu'il donnait, quoi. C'était vraiment... Mmh. On passe un moment ensemble et puis tout, et puis...
On te met ce que tu as besoin, voilà.
Exactement.
Ouais,
et même s'il racontait des histoires sur les couilles qu'il y arrivait pendant les concerts et puis tout, c'était ça qui était important parce que moi je pétais tout le temps des cordes, tu vois, pendant toutes les concerts, tu vois, c'était vraiment tellement je jouais fort, tu vois. D'ailleurs, le groupe, il m'a toujours appelé le bûcher quand je jouais la guitare.
Bon. Le bûcheron.
On va écouter une dernière petite chanson officielle de ta sélection et puis après, c'est moi qui ai fait un petit final.
Excellent. Alors, on en est où dans Regardons.
Nothing Really Matters. On n'a toujours pas écouté. On a déjà annoncé. Mais...
Ah ouais, tu l'as annoncé, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas.
C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça, en fait. Ah non. Ah non, c'est un jingle. On a fini la sélection. Putain,
oui.
Ah ouais. Non, c'est un jingle en fait. Donc on va faire.
Non, j'avais un truc, mais on va peut-être, c'est peut-être hors sujet. C'est une jeune chanteuse que je trouve très sympa en ce moment. J'avais mis un truc, mais j'avais mis en dehors en fait.
Donc, mais tu me l'as pas envoyé.
Si, je l'ai envoyé, ouais, je l'ai envoyé.
On n'a pas joué.
Non, mais c'est un peu. On pourrait s'arrêter là parce que c'est une chanteuse pop et puis c'est un peu hors cadre. Voilà. D'accord. Comme tu veux, on peut écouter plutôt des.
Alors,
des
versions. On va rester dans le jazz, mais par contre, on va rester dans le jazz influence, en fait, dans le monde, même hip-hop. Donc, on va écouter un petit bout, on va pas écouter toute la chanson, et puis on va écouter un petit bout, et puis après, on
Excellent. Dit. Magnifique.
Check the strap, me and my boys getting repped. Runs in the belt, 40 dogs to my left. Had a box, boom boom, the bass would blast. We was laughing at all the girls who passed. Conversation, brothers have began to discuss.
Ain't no plan, we can't be a cow.
T'as reconnu? C'était Wu-Tang Clan.
Ouais. J'aurais pu trouver, je crois. Ouais. J'ai pensé à Wu-Tang, ouais.
Exactement. Et justement, il y a des amis à moi qui avaient l'idée, en fait, de faire ça en version reggae. Donc, on écoute un petit peu de suite.
Ah, c'est ta version, maintenant.
Non.
We still a fight Babylon. Animals away and them still not move yet. What goes up must come down, so them still a fret. It's all about faith and not intellect. Your love is psychological more than the eye check. From your heart to your eyes, from your eyes to your brain. Believe in a better life.
Là c'est
On a réussi d'avoir Alborosi, donc on a galéré pour faire ce rhythm. On a bossé pendant presque 2 ans rien que pour le rhythm, en fait, pour réussir de mettre ce. Parce qu'on a toujours dit, on n'a toujours pas dit qui c'est l'original qu'on écoute derrière, parce qu'on l'a commencé au début. C'est bien sûr Wendy Rien avec After Laughter. Ouais. Et on a pris ce morceau vu qu'il y avait Wu-Tang Clan qui ont déjà fait un hit avec et puis tout, on s'est dit ouais, on va faire ça en rhythm reggae, et c'était hyper difficile parce que en gros le morceau, l'original qu'on va écouter à la fin pour la fin de notre émission, il est tellement pourri on doit dire rythmiquement, tout est vraiment hors rythmique. Mais okay, dans l'ensemble, avec sa voix dessus et puis tout, ça donne super bien. Mais par contre, si tu veux reprendre ça et puis de le mettre en rythme et puis tout, c'est vraiment... C'est... Donc,
ça marche. Ça marche, ouais. On ne sait pas pourquoi ça marche.
Bah, l'original, ça marche. Mais si toi, tu veux le mettre en musique moderne et puis tout, et puis même si tu regardes Wu-Tang Clan et puis tout, ils mettent un petit bout du truc et puis après, ils chantent dessus. Nous, on essaye de combiner, en fait, les trucs.
Excellent.
Donc, on a fait un rhythm et puis après, on a essayé de contacter Alborosi et puis tout, qui nous a accepté, en fait, de donner la voix. Bon, on a payé le prix, mais on a réussi d'avoir sa voix sur ce rhythm-là. Et puis après, les potes avec qui on a fait, c'était un sound system. Ils ont quand même réussi de me convaincre, en fait, de faire une version. Et puis, on va juste écouter un petit bout. Vous pouvez le trouver sur chaba.ws, After Laughter, featuring Wendy Rien. On va écouter un petit bout. On va couper. On va finir l'émission et écouter l'original par la suite.
What have you done? It's a disaster. See them run. What about the people you have let down? We're not all equal. When the rain a come, there is a balance, a price to pay. Western comfort, paid holidays, no limit credits, house on the bay. All you feel shall fade away. After laughter comes tears. So many tears. After laughter comes tears. We want to be both small.
Voilà. Joli.
Ouais, ça c'était. On avait fait ça avec un sound system. On se souvient même plus le nom, mais c'était avec David. Et puis on a réussi à faire le coup, mais du coup le jazz se mélange au hip-hop, au reggae. Il y a des influences un petit peu partout. Et puis, voilà. On arrive un petit peu à la fin de notre émission avec les chanteuses. Peut-être partie numéro 1.
Voilà, partie numéro 1. Voilà. Exactement. Belle brochette.
Cool. Bah Yann, ça fait plaisir. On se réjouit pour la prochaine.
À fond. C'était chouette de partager ces chanteuses avec toi, avec les auditeurs. Et puis, on fera une prochainement une nouvelle version avec d'autres chanteuses, peut-être plus expérimentales aussi. Bon, on a plein d'autres choses à voir hein, que des chanteuses des chanteurs.
On a d'autres projets. On peut aussi, les chanteuses, on peut aussi faire un petit peu plus tard.
Exactement.
Il y a d'autres projets qui sont en vue. Pour l'instant, on ne dit rien, mais on se dirait à la prochaine. Quoi.
Exactement. Alors, bonne soirée à tous et à toutes.
Et puis, on écoute encore Wendy Reen, l'original. À bientôt. Merci beaucoup.
Oh,